Comment allez-vous? C'est un grand retour pour nous. On a eu un bon temps de vacances, on va dire ça comme ça. Et on est très très heureux de vous retrouver, de pouvoir reprendre aussi une dynamique d'église. On va avoir une année intéressante, vous allez voir beaucoup de projets, beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Et dans cette réflexion-là, c'est gentil, merci beaucoup. Dans cette réflexion-là, je voulais vous partager un message un peu de rentrée, malgré tout, qui pourrait être considéré comme un message de fondement spirituel. Souvent, avant de démarrer et de repartir sur des années, c'est toujours bon de vérifier les fondations. Je pense qu'il y a tellement de textes qui en parlent. Jésus, au travers de la parabole de celui qui bâtit sa maison, s'il bâtit ses fondations sur le sable, évidemment, la maison s'écroulera. Et en début d'année, je voudrais qu'on soit tous sur les mêmes fondations spirituelles. Et je voudrais partager une réflexion au travers d'un personnage biblique, pas toujours bien connu, voire confondu d'ailleurs. Et ce personnage biblique s'appelle Josué. Alors, dans les Écritures, il y a deux Josué. Et ce matin, j'aimerais vous parler de Josué, fils de Jotsadak. Est-ce que vous connaissez ce Josué ? Pourquoi j'en parle de cette façon-là ? Parce que bien souvent, on fait la confusion entre le Josué qui est parti à la conquête de Canaan, c'est le Josué du livre de Josué, cet homme de Dieu qui a été remarquable, disciple de Moïse, qui est parti à la conquête et qui a entrepris un grand, grand projet, c'est l'établissement d'Israël dans le pays de la promesse. Et on se rend compte que quelque part, cet autre Josué dont je veux vous parler ce matin, qui n'est pas le Josué fils de Nun, mais le fils de Jotsadak, cet autre Josué a eu une vocation un petit peu similaire. S'il n'était pas question d'établir le peuple en Israël, la mission que cet homme avait, parce qu'il était souverain sacrificateur en Israël, il a fait partie de la première génération d'exilés qui retournaient au pays après Babylone. Est-ce que vous me suivez ? Déjà là, peut-être j'en ai perdu un quart. Il faut savoir qu'à la fin des rois, Israël, parce que Israël et Juda n'ont pas été à la hauteur de ce que Dieu voulait et sont partis dans des dérives d'idolâtrie, Dieu a décidé d'exiler et il a amené Juda, il a amené Israël à vivre hors du pays. Et pendant 70 ans, Juda a été exilé à Babylone. Et pendant cette période-là de 70 ans, vous avez le livre de Daniel, mais vous avez tout un tas de textes et de prophètes qui annoncent le retour d'Israël, de Juda en tout cas, dans le pays de la promesse, à Jérusalem. Et 70 ans plus tard, vous avez Josué, fils de Tsadok, qui va repartir avec toute une partie du peuple pour rebâtir le temple d'Israël à Jérusalem. Et ce monsieur avait une responsabilité particulière puisqu'il était souverain sacrificateur et il a été l'un des premiers souverains sacrificateurs du retour d'exil. Et il a travaillé à reconstruire le temple à Jérusalem parce qu'il avait été détruit par les Babyloniens. Et pendant ce temps-là, pendant cette période, on se rend compte que Josué, mais tous ceux qui étaient retournés d'exil, tous ceux que Dieu avait ramenés dans le pays vont vivre des combats spirituels, des luttes, de l'opposition. Parce qu'en effet, ce n'était pas bien vu de rebâtir le temple, ce n'était pas bien vu d'essayer d'entreprendre de rebâtir le temple. Et avec Zorobabel, parce que ces deux personnages sont liés, Zorobabel, c'est très intéressant, je vais vous faire une parenthèse, c'est juste magnifique. Quand Dieu fait retourner Israël dans Jérusalem, quand Dieu fait retourner Israël, ou en tout cas Juda à Jérusalem, il fait revenir dans le pays deux lignées. Il fait revenir la lignée de David au travers, vous me suivez ou pas ? De Zorobabel, on y est. Et il fait revenir Aaron, le sacrificateur, au travers de Josué, parce qu'il est un descendant. Et les deux lignées se retrouvent à Jérusalem, et les deux sont concernés par la plupart des prophéties, dont celle d'Agé, dont celle de Zacharie. Ça, c'est pour les un peu plus pointus. Et c'est très intéressant de se rendre compte qu'il fallait que les deux reviennent pour que Jésus naisse. Parce que Jésus fait le lien des deux. Regardez la généalogie de Jésus, c'est extraordinaire. En Jésus, la lignée de David et la lignée d'Aaron se retrouvent. Extraordinaire. Bref, Dieu est trop fort. Donc, nous avons Josué qui retourne à Jérusalem avec Zorobabel pour rebâtir la maison d'Israël. Et clairement, ils vont être confrontés à des attaques de divers ordres, des attaques physiques, des attaques matérielles, puisqu'ils vont rencontrer de l'opposition, ils vont commencer à rebâtir la maison d'Israël. Et rapidement, les habitants du pays, ceux qui étaient là et qui ont vu les Juifs revenir dans le pays, vont s'opposer au fait que la maison d'Israël soit rebâtie. Alors je vous la fais courte parce que c'est très long, c'est très compliqué, et c'est pas l'étendue, c'est pas là où je veux nous amener ce matin. Mais clairement, rebâtir le temple va amener deux types d'opposition. D'une part, une opposition physique, matérielle, et j'ai mis un texte, il me semble, je crois que c'est Esdras chapitre 4. Alors, je vous mets les textes, mais juste pour que vous preniez note, au chapitre 4, verset 4, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, et ça va commencer par de l'intimidation. Peut-être tu vis de l'intimidation ce matin. C'est possible, hein? Peut-être au milieu de nous, il y en a qui vivent l'intimidation parce que peut-être il y a des choix et des décisions que tu as fait et des paroles que tu as prononcées avec ton Dieu. Tu as fait le choix de rebâtir la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel, comprenez, il y a une image spirituelle extraordinaire de ce retour vers Dieu, de ce retour dans la maison de l'Éternel, de ce retour dans la présence de Dieu, de cette volonté de reconnecter avec Dieu. Clairement, Israël est dans cette dynamique. Lorsque Juda retourne à Jérusalem, c'est dans le but de rebâtir les autels, de rebâtir un lien spirituel entre Dieu et le peuple. Et toi, peut-être, tu as fait des choix, tu décides de rebâtir la maison de l'Éternel, de rebâtir une intimité avec Dieu, de rebâtir la maison du Seigneur. Et là, il y a l'intimidation qui arrive. Vous connaissez ça? Oh, mes frères et sœurs, nos paroles nous engagent spirituellement et engagent le monde spirituel avec nous. Et finalement, il y a eu une forme d'opposition et qui a commencé par l'intimidation. Et j'ai mis le verset 23 au travers d'une lettre du roi d'Arxerxès. Et puis la suite, c'est surtout 24. Et notez bien le verset 24. « Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la période, la seconde année du roi Darius, roi de Perse. Mais regardez juste à la fin du verset 23. « Ils firent cesser les travaux par de la violence et par la force. » Par moments, c'est de l'intimidation. Par moments, ça va encore plus loin. Il y a une opposition physique qui prend place, on ne comprend pas, on revient dans la maison de l'Éternel, on décide de rebâtir la maison de l'Éternel et on se rend compte qu'il y a une forme d'opposition qui commence à venir, il y a un combat qui prend place. Et merci Seigneur, parce que cette opposition-là va prendre un terme lorsqu'à un moment donné, le prophète Agé, et là je suis obligé de revenir sur ces textes, le prophète Agé, je crois que j'ai mis la version, est-ce qu'on peut mettre le texte suivant? Le prophète Agé va dire à Zorobabel, et notez bien tous les termes, la seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète, à Zorobabel, le descendant de David, fils de Shemliel, gouverneur de Juda, et à, on le retrouve là, Josué, et à Josué, fils de Tchadok, le souverain sacrificateur en ces mots. Et c'est tout le texte où il est fait question de pourquoi vous habitez, vous, dans des demeures lambrissées, pourquoi l'Éternel, lui, n'a pas la demeure qu'il a besoin. Et à la suite de cette parole prophétique d'Agé, tout le peuple va se remettre à bâtir la maison d'Israël et ils vont rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Ok. Ça, c'est un premier niveau d'opposition. Et je veux juste nous encourager dans la direction, dans la volonté de bâtir la maison de l'Éternel. Tu pourrais avoir une opposition physique, une opposition matérielle. Tu pourrais avoir des menaces. Tu pourrais avoir des menaces même physiques, même te retrouver dans un combat. Mais l'Éternel aura le dernier mot. Personne ne t'empêchera de rebâtir la maison de l'Éternel. Personne ne t'empêchera de rebâtir une relation avec Dieu. Maintenant, il y a un deuxième niveau d'opposition. Et souvent, nous l'oublions, nous passons à côté ou nous ne saisissons pas la portée de ce schéma d'opposition qui pourrait prendre place parce qu'il est plus subtil. Et par moments, on n'en prend pas forcément conscience parce que nous sommes souvent sur le terrain de l'affrontement spirituel, du combat qui vient à nous, de l'opposition physique, des menaces par moments, de l'opposition qui se matérialise par un combat ou une opposition franche. Mais par moments, il est une autre forme de combat que l'ennemi va entreprendre dans nos vies. S'il utilise l'adversité, s'il utilise un combat extérieur à nous, Le diable va chercher à amener le combat à l'intérieur de nous. Parce que pour bâtir la maison de l'Éternel, tu trouveras de l'opposition extérieure. Mais là où on ne s'y attend pas, c'est quand le combat est à l'intérieur. Josué, souverain sacrificateur, va être confronté à une lutte, à un combat qui par moments nous échappe, échappé peut-être même à Josué. Et le diable est venu attaquer cet homme dans un monde spirituel. Il est dit souvent du diable qu'il est l'accusateur de notre âme. Et le diable va amener Josué dans un procès. On va prendre le texte, Zacharie chapitre 3, verset 1er. Il me fit voir Josué, et c'est Zacharie qui parle, le prophète, le souverain sacrificateur, celui qui représente la lignée d'Aaron, celui qui représente l'autorité spirituelle, le souverain sacrificateur, celui qui est en lien avec l'Éternel dans l'ancienne alliance, debout devant l'ange de l'Éternel. Et là, tous les mots sont importants, mes frères et sœurs, parce que bien souvent, on passe, mais quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de... On est Jésus, hein, on est d'accord. On est dans de la théologie systématique. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. OK ? La mission première qu'a le diable, c'est de t'accuser. Et il est connu pour être cet accusateur. Et là, dans ce texte, on va juste en rester là quelques instants. On va rester le texte figé quelques instants, si vous voulez bien. Il est un niveau d'opposition qui n'est pas toujours compris dans nos vies spirituelles. Lorsque nous amorçons le désir de rebâtir la maison de l'Éternel, tu vas avoir rendez-vous avec l'accusateur de ton âme. S'il est une chose que l'ennemi veut entreprendre et t'empêcher de faire, c'est de rebâtir ta connexion avec Dieu. Il y a quelque chose de systématique. Chaque fois qu'Israël a cherché à rebâtir la maison de l'Éternel, il y a eu des schémas d'opposition qui se sont mis en place. Il y a eu des combats qui ont pris place. Sauf que dans nos vies spirituelles, souvent on est à cheval sur l'opposition matérielle, sur l'opposition extérieure, mais on est moins vigilant sur une opposition qui prend place à l'intérieur de notre cœur. Et Satan, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il entreprend. Et avec Zorobabel, c'est ce qu'il va faire. Il vient sur le domaine spirituel, il vient sur le combat intérieur et il va entreprendre de te mettre des embûches spirituelles pour que tu te casses la figure. Pourvu qu'il tombe avant que la première pierre soit bâtie. Souvent, nous négligeons cet aspect-là. Souvent, nous ne nous inquiétons pas de cela. Et permettez-moi de m'inquiéter, en fait. Je m'inquiète du fait que l'on ne voit plus le péché comme un problème dans l'Église. Je m'inquiète de ce que l'on ne veut pas voir certaines situations comme problématiques, comme péché devant Dieu. Je m'inquiète car chuter et vivre dans le péché, excusez-moi, me disqualifie aux yeux de Dieu. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que cela nous disqualifie ici-bas, mais surtout, ça nous disqualifie là-haut. Nous avons besoin d'une portée spirituelle des choses, d'une compréhension spirituelle des réalités qui sont les nôtres. On peut être disqualifié ici-bas, mais mon frère, ma sœur, disqualifié là-haut. Comment peut-on envisager les choses de cette façon-là ? Et je m'inquiète de cette perspective où finalement le péché est toléré et où on peut considérer que finalement Dieu fera avec, c'est pas un problème. Regardez ce qui se passe. Lorsque nous tolérons le péché, lorsque nous tolérons ces choses-là dans nos vies, que fait Satan ? Il nous amène spirituellement devant le trône. Et vous savez ce que fait le diable ? Il devient l'inquisiteur. Il devient le procureur et il nous amène en accusation devant Dieu. Et aussi, le diable s'amuse et dit à Dieu, hey, regarde-le. Regarde-le, regarde sa vie éternelle. Regarde ce qu'il devient, regarde ce qu'il fait. Le diable cherche à nous discréditer aux yeux de Dieu. Comprenez, ce passage-là n'est pas une vision spirituelle, mais c'est une réalité spirituelle de ce qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque nous acceptons de vivre dans le péché, lorsque nous acceptons de ne pas rentrer dans le combat de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur, quand on n'est plus à cheval au combat extérieur et qu'on ne regarde plus au combat intérieur, le diable nous amène dans un tribunal et nous juge. Celui qui nous a fait tomber et celui après qui nous accuse. Vous vous rendez compte de ça? Et il cherche à nous plomber aux yeux de Dieu. Il cherche à nous voler les promesses. Il cherche et il dit à Dieu, tu vois, il est discrédité. Il a perdu toute valeur. Il vit dans le péché. Il vit dans une situation. Et notez le verset 3. Est-ce qu'on peut mettre le verset 3? Il ne doit pas être loin. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange de l'Éternel. Certains voient dans Josué une lignée sacerdotale. C'est-à-dire que ce n'est pas Josué en lui-même. C'est toute sa lignée de sacrificateurs, de souverains sacrificateurs qui n'ont pas été à la hauteur et qui ont péché, qui ont permis des atrocités, qui ont permis l'idolâtrie dans le temple. Certains voient Josué lui-même responsable de certains péchés. Je vous dirais, peu importe en fait. Josué, souverain sacrificateur, est présenté comme celui qui porte le vêtement sale et qui se tient devant l'Éternel. Et qui passe sous le jugement d'Hébreux chapitre 12, 14, chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Une église qui ne cherche plus à vivre la sanctification, c'est une église, pardonnez-moi, qui ne verra pas Dieu. Et je voudrais mettre et asseoir cette base fondamentale dans nos vies, parce que par moments, on pourrait considérer que Dieu est amour. Je suis convaincu que Dieu est amour. Et ce texte, vraiment, est magnifique, parce qu'il met tellement en valeur l'amour de Dieu, comprenez. Il est tellement riche en bonté, tellement riche en grâce et en fidélité. L'Éternel, oui, riche en amour, et il pardonne, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de doute, on appartient à un Dieu qui est riche en miséricorde, qui prend plus de plaisir à la grâce. Et à la miséricorde, nous appartenons à ce Dieu. Mais nous sommes aussi en face d'un Dieu qui ne tolère pas le péché et qui n'accepte pas le péché. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il y a un tribunal céleste. Parce que le diable, comme lui-même est discrédité, il cherche à embarquer avec lui. Et quand le diable se présente dans les lieux célestes, comme il l'a fait avec Pierre, comprenez, il y a des textes qui doivent résonner dans notre cœur. Quand Jésus dit à Pierre, « Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. On est au tribunal. » Quand le Satan se présente devant Dieu et qu'il essaie d'accaparer l'âme de Job, on est au tribunal. Et le diable cherche à emporter tout ce qu'il pourra. À voler tout ce qu'il pourra, à détruire tout ce qu'il pourra, à discréditer tout ce qu'il pourra, parce qu'il sait que sans sanctification, on ne peut pas voir la gloire de Dieu, on ne peut pas voir l'œuvre du Seigneur. Et on est en face de ce tribunal où Satan a réussi à faire trébucher Josué, et il embarque Josué, et il dit à Dieu, hey, regarde, c'est ça la lignée que tu as choisie pour sauver Israël? C'est ça que tu as la lignée que tu as choisie pour sauver le monde. Le diable cherche à discréditer et à détruire le plan de Dieu. Dans ce tribunal, il cherche à mettre Dieu en difficulté. Il dit, regarde, regarde, c'est lui que tu as choisi. C'est un pécheur. Destitue-le. Il est brûlé. Il est consumé. C'est fini, en fait. Mes frères et sœurs, tous les jours, chaque minute, ce tribunal prend place dans les cieux. chaque instant, le diable est en train d'accuser pour voler et détruire, briser la destinée de l'Église, briser la destinée de vie et d'âme. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Est-ce qu'on peut revenir sur Zacharie, s'il te plaît, le texte de Zacharie ? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Amen. Et le texte n'en reste pas là. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Face aux accusations, face à ce que l'ennemi essaie d'entreprendre, face au péché qui voudrait prendre place, face à cette situation-là qui prend place dans nos vies, face à cette attaque spirituelle qui vient et prend place alors qu'on essaie de rebâtir la présence, la maison de l'Éternel, l'ennemi cherche à détruire, à ravir, les leviers d'opposition sont en marche, autant physique, moral, spirituel, par intimidation, en forçant, en s'opposant, mais aussi spirituellement à l'intérieur de nos cœurs, le combat prend place. Et là, l'accusateur pense avoir tout gagné, pense avoir vaincu le combat, pense se dire « ça y est, c'est fini, il est cramé, il est grillé, je vais le destituer de la destinée que Dieu avait pour sa vie. C'est réussi alors que l'ennemi pense avoir gagné. » Notre avocat céleste est là et il combat pour nous. Il rejette les paroles de l'ennemi. Il rejette Satan, il le met à l'écart. L'accusateur, tais-toi. Tais-toi. Et Dieu dit dans ce passage-là, quand bien même le péché serait là, et il y a un texte parce que c'est la suite de Zacharie. Est-ce qu'on peut mettre la suite, s'il te plaît ? On a un petit temps de décalage avec les manips. Waouh ! On voit rien. Vous voulez bien qu'on prenne le texte, Zacharie ? Ça va vous faire drôle, hein, aller dans Zacharie. Zacharie chapitre 3, je vais vous le lire. Il me fit donc voir Josué, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan ! Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Et écoutez bien ce qu'il est dit. Attention. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu ? Vous avez cette version-là ? Est-ce que vous avez une autre version ? Je serais curieux. Voilà, un bout de bois arraché au feu. J'aimerais vous poser une question. De qui parle l'Éternel ? Quand il est fait question de « n'est-ce pas là un tisson, un bout de bois arraché du feu ?» De qui l'Éternel est en train de parler à ce moment-là ? Oui, peut-être Israël. Il n'y a plus judicieux encore comme réponse. J'ai entendu ? Josué. L'Éternel est en train de parler de Josué. D'ailleurs, en fonction des versions, vous pourriez trouver, n'est-ce pas là, Josué, le tison ardent, le tison sorti du, arraché du feu. Et c'est tellement important de poser les mots sur ça, comprendre ce qui se passe. C'est que le feu du péché est en train de détruire Josué, est en train de détruire la lignée sacerdotale. Satan le sait. Satan sait que si la lignée de Josué se détruit, s'anéantit, il va manquer une partie au salut. Aussi, il est important que Josué disparaisse dans le plan du diable. Mais Dieu le sait. Et c'est là la grâce de Dieu, c'est là l'amour de Dieu, mon frère, ma sœur. Parce que par moments, on voit la grâce dans le fait que Dieu pardonne le péché. Oui, c'est vrai. Mais ce que fait Dieu, la grâce se manifeste dans cette volonté de refuser que le tison brûle, disparaisse. Parce que si le péché est attirant, mon frère, ma sœur, si le péché est séduisant, la finalité, c'est les cendres. La finalité, c'est la destruction. La finalité, c'est que le péché t'emporte, te brûle, te détruise. Alors que fait l'Éternel face à l'accusateur? Eh, regarde, Josué, ton serviteur, il est en train de brûler. Il est en train de disparaître. Que fait l'ange de l'Éternel? Il va mettre la main dans le feu. Et il va chercher le tisson. C'est ça dont on parle. Il va chercher Josué dans le feu. Et il l'arrache au feu. Il l'arrache. Par moments, il reste encore un peu de bois. Par moments, il ne reste pas grand-chose. Mais il décide de sauver Josué. Il va mettre la main dans le feu pour aller chercher le tison qui est en train de brûler. Et ça, c'est la croix, mes frères et sœurs. Jésus a mis la main dans le feu pour venir te chercher. Et il s'est brûlé, mais il t'a sauvé. Amen. Il est venu te chercher et il t'a sauvé. Bien souvent, la question qui subsiste, c'est que là, en effet, par moments, c'est un combat spirituel que de nous arracher. Parce que toutes les versions s'accordent, et c'est ça qui est très intéressant, je crois qu'il n'y a que deux ou trois versions, mais la plupart des versions s'accordent pour parler d'arracher. Pendant presque un mois, je me suis retrouvé avec à devoir faire par moment deux fois par jour mon pansement au doigt. Vous connaissez ça? Tous les jours, je devais changer mon pansement. Parce que je risquais une infection, donc je devais désinfecter. Et le moment le plus redouté, devinez. C'est quand j'enlevais le vieux pansement. Toujours la peur que le sparadrap colle. Et en fait, ça faisait toujours mal, en fait. Et à un moment donné, il fallait bien arracher pour sanctifier, pour purifier la plaie. Et quand on parle d'arrachement, le texte est d'une précision, d'une clarté. Lorsqu'on parle d'arracher, par moments, on a l'impression que la posologie ou le soin est plus douloureux que le mal. Parce que très honnêtement, par moments, j'avais envie d'oublier de faire mon pansement. Hein. Tant qu'à faire, évitons de souffrir un peu. Sauf que c'était une condition nécessaire pour guérir. Et par moments, arracher, c'est toute cette image-là que Dieu décide de faire. Quand il nous voit dans le péché, qu'il nous retire du feu, mes frères et sœurs, ça lui coûte. Et par moments, ça nous coûte aussi. Alors, ça lui coûte plus à lui qu'à nous, hein, on est d'accord. Hein. Parce que des fois, Dieu fait tout en douceur pour nous. Hein. Mais par moments, quand on est souverain sacrificateur, et comprenez l'allusion, parce que quand on vient à Jésus, que l'on sort du monde, que Dieu nous fait vivre et passer des ténèbres à la lumière, Dieu combat pour nous. Hein. Mais quand nous sommes dans la lumière et que Dieu est obligé d'aller nous chercher dans le feu, Dieu est dans une autre approche, un peu plus pédagogique. Il se dit, mon enfant, il reste encore du bois, préserve-le. Parce que par moment, il pourrait ne plus rester grand-chose à la fin. alors je vais te sauver. Et ça fait référence à un autre texte où Dieu vient chercher une extrémiste dans le feu. Vous voyez ce texte ? Où il n'y a plus de récompense, mais on est sauvé comme par le feu. Et Dieu met en évidence des réalités spirituelles tellement importantes parce que lorsque nous prendrons place au tribunal, comme c'est peut-être plus ou moins le cas, Dieu nous met en garde que s'il nous retire du feu, par moment, il pourrait ne plus rester grand-chose. Je vais terminer. Il est un autre texte qui parle d'être arraché. Et vous allez voir, c'est Jude qui en parle. C'est étonnant. Parce qu'on met plein de textes en parallèle et en compréhension. Jude, chapitre 20. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre foi très sainte, votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenant, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns les autres, ceux qui contestent. » Notez bien le mot « sauvez-en ». Sauvez-en d'autres du feu. Notez bien, en les arrachant du feu. Oui ? Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Il y a des grandes similitudes avec Josué, non ? Peut-être vous en convenez ou pas ? Oui ? Dieu peut-être est en train de s'atteler à enlever le pansement. Pour vivre une sanctification nécessaire pour voir Jésus dans nos vies. Et je rejoins la prophétie qui a été partagée. Je crois que Dieu est en train de préparer son Église à vivre ce qu'elle a besoin de vivre. Il est des questions très importantes quant à notre avenir, quant à ce que nous sommes appelés à vivre. Et Dieu nous interpelle sur une direction. Alors Dieu n'attend pas que nous soyons saints dans la perfection. C'est une utopie ici-bas, on est d'accord. Nous devons aspirer à la sainteté, chercher à vivre la sainteté, à faire de la sainteté quelque chose qui est important pour nous combattre. Et surtout quand Dieu nous appelle à rebâtir la maison de l'Éternel, prendre conscience que l'opposition peut venir de l'extérieur, comme celle-ci peut venir de l'intérieur. Et si celle-ci vient de l'intérieur, prends garde. Parce que Jésus pourrait être amené à venir te chercher dans le foyer. Aller chercher le tison brûlé, peut-être cramé, peut-être en passe d'être détruit. Au-delà même de tout cela et du sentiment que tu pourrais avoir parce que arraché. Vous savez, des fois, il y a des mots qui prennent du sens parce que quand on vit ce genre de situation, c'est ce que moi, j'appelle des victoires amères. Je pose des mots sur des choses que peut-être certaines personnes vivent, où ils confessent la victoire de Jésus sur leur vie. Mais cette victoire, elle a un drôle de goût. Elle a un drôle de goût. Même peut-être on aurait du mal à dire « Ah, merci Seigneur !» Sauf que, en allant te chercher, en allant t'arracher du feu, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Sauvé d'une destruction. Et il a manifesté sa grâce non seulement en te pardonnant, mais en allant te chercher là où toi-même, tu ne pouvais pas t'en sortir. Et c'est ça la grâce. Parce que l'idée n'est pas de se maintenir dans une situation de péché. Comprenez, Jésus n'a pas laissé le bâton continuer à se cramer. N'a pas laissé le péché continuer à consumer le bois. Parce que Jésus prend plaisir à nous sauver, à ne pas nous voir en souffrance. Mais là, dans ce contexte-là, Jésus prend le temps d'aller chercher dans le feu le tison, par moments brûlé, cramé, détruit. Peut-être il en reste peu. Mais Dieu fait grâce pour que ça ne soit pas des cendres. Pour que ça ne soit pas des cendres, mon frère, ma sœur. Ce matin, je voudrais qu'on prenne un temps, si vous voulez bien, dans la présence de Dieu. Je voudrais qu'on baisse nos têtes quelques instants. Et je sais que c'est peut-être un message un peu solennel. Il en faut de temps en temps. Parce que ça fait partie des fondements. Le texte d'Esdras est un texte de fondement où Dieu s'attelle à bâtir la maison de l'Éternel. Et ils vont commencer par les fondations. Et il y a un texte magnifique où il est dit qu'en posant les fondations, ils vont pleurer. Je voudrais nous encourager ce matin à comprendre ce que tu vis en ce moment. À comprendre cette dynamique qui prend place dans ta vie du feu destructeur. Et comme un avertissement solennel de la part de Dieu en disant « Je t'ai retiré encore une fois du feu. » Tu es sacrificateur de l'Éternel. Tu es appelé à être une nation de souverains, de sacrificateurs. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus, pardon. Une nation de sacrificateurs qui loue l'Éternel, c'est ce que Dieu veut faire de toi. Jésus, l'ange de l'Éternel, est allé dans le foyer chercher le souverain sacrificateur Josué. J'aimerais te rappeler que c'est ce que l'Éternel a fait pour toi. Que le procès a eu lieu, que le diable a cherché à te détruire, mais que Jésus a pris ta défense. Que Jésus a renvoyé l'ennemi, a demandé à l'ennemi de se taire. Non, tu ne voleras pas mon serviteur. Non, tu ne voleras pas ma servante. Non. Elle ne va pas être détruite. Il ne va pas être détruit. Je vais les sauver du feu. Jésus plonge la main dans le feu. Il va récupérer le tison que tu es. Rougi par les flammes. Peut-être encore en train de brûler. Il calme le feu. Il apaise le feu. Et peut-être tu te regardes et tu te dis, Seigneur, je suis qu'un tison brûlé. Dieu t'aime quand même. Dieu est capable de faire des miracles, même avec un tison brûlé. Même avec un tison carbonisé, Dieu peut faire des miracles. Josué était un sacrificateur carbonisé. N'est-ce pas le tison arraché des flammes? T'es peut-être un tison arraché des flammes ce matin. Dieu te rappelle l'amour et la patience qu'il a envers toi. Et veut t'encourager à marcher dans la voie de la sainteté. À marcher dans la voie de la pureté maintenant. Il t'a sorti du feu pour ne pas y retourner. Maintenant, peut-être le pansement est douloureux. J'entends. Le pansement est douloureux. La victoire est amère. Elle est peut-être nourrie d'incompréhension. Et par moments, le bien peut tellement ressembler à du mal. Dieu va guérir ton cœur. Dieu va guérir ton âme. Dieu va apaiser le feu. Et ce qui est une victoire amère aujourd'hui deviendra une victoire joyeuse demain. Saint-Esprit, parle au cœur ce matin. Saint-Esprit, parle au cœur ce matin. Donne à ton Église d'aspirer à vivre la sanctification. Donne-nous d'aspirer à vivre la sanctification. Qu'en ce début d'année, mon Jésus, que nos cœurs soient synchronisés avec ton cœur, mon Dieu. Qu'on soit connecté avec ta personne, mon Jésus. Que nos aspirations trouvent leur orientation avec les aspirations de ton cœur pour nous. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, fais lever au milieu de nous des Josué qui vont rebâtir la maison de l'Éternel, qui vont vivre l'opposition, mais qui vont voir le miracle de l'Éternel, qui vont vivre des combats, mais qui vont sortir victorieux, ou qui vont voir même la grâce du Seigneur aller les chercher dans le foyer. Oui, l'Éternel m'a arraché du feu du péché et de la destruction éternelle. Seigneur Jésus, que les victoires amères deviennent des victoires riches de sens. Que les victoires amères deviennent des louanges pour ce Dieu qui nous a suffisamment aimés pour mettre la main dans les flammes, pour sortir le tison brûlé. Seigneur, tu es un Dieu d'amour et de grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.